Il est midi sur Alger, chaîne 3, Sihem Bacha au micro pour le 12-13. Au sommaire, le président de la République félicite les Algériens à l'occasion de l'avènement du mois du Ramadan. Les habitudes alimentaires et de consommation des Algériens durant ce mois constituent le dossier de cette édition. La commission paritaire des deux chambres du Parlement tient sa première réunion pour statuer sur sur les textes criminalisant le colonialisme français et celui portant Côte de la Route. Une voix majeure de la défense de la Palestine n'est plus Leila Shahid, première femme à représenter l'OLP à l'étranger. C'était éteinte hier à l'âge de 76 ans. La mission indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Soudan fait état ce jeudi d'actes génocidaires à Al-Fashab. Et puis sport, gymnastique, première étape de Coupe du Monde en Allemagne. Notre championne olympique, Kaylian Nemour, entre en lice cet après-midi au bar asymétrique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le magazine de ce 12-13. Le Ramadan peut constituer une pause bénéfique pour l'organisme à condition d'éviter les excès. Comment alors mettre à profit cette période de l'année pour se sentir mieux dans son corps? Voici les conseils du professeur Samia Zekri, professeur en médecine interne à l'hôpital de Petralia. Elle répond aux questions de Hassan Chemache.
Professeur Samia Zekri, bonjour. Professeur, on va parler du Ramadan, du bon comportement à adopter durant ce mois sacré. Durant le Ramadan, on consomme énormément de sucre. Après des heures de jeûne, en fait, la rupture se fait avec beaucoup de sucre, beaucoup de shorba, beaucoup de pain. C'est un tsunami, comme vous l'avez dit, professeur. Ce n'est pas sans conséquence sur notre santé.
Absolument.
Vous confirmez ?
Je confirme à 1000%. Effectivement, ce qu'on fait à notre corps, alors, dans la réalité, le Ramadan, la preuve, c'est que maintenant, il y a le jeûne intermittent qui est pratiqué dans le monde entier et qui est même recommandé par les instances savantes. Si je prends l'Association américaine du diabète, elle dit, sur le plan du régime, il y a le régime intermittent, dans le régime méditerranéen ou régime anti-inflammatoire qui sont reconnus et c'est ça qu'on devrait conseiller à tout le monde. Le Ramadan, c'est une opportunité de faire du bien à notre corps et particulièrement notre tube digestif. Vous savez que nous abritons des bactéries, des bonnes bactéries et des moins bonnes et que les bonnes bactéries, qu'on appelle le microbiote, on doit réellement le bichonner parce que c'est lui qui nous fait vivre. Se mettre à jeun pendant des heures, hein. Nous, c'est un jeûne qui est complet, on ne boit pas, on ne mange pas, on s'abstient sur beaucoup de plans pendant 16 heures, voire plus, tout dépend de la saison. Et puis après, on fait des folies alors que notre corps a commencé à se détoxifier et puis ces bactéries vont acquérir un autre rôle par rapport à notre immunité, elles vont se renforcer, etc. On fait tout pour les détruire au moment de la rupture. C'est la porte ouverte à tous les excès. Effectivement, c'est un tsunami. Lorsque l'on mange habituellement, déjà, après, au moment de manger, vous avez la glycémie qui monte. Déjà, chez certaines personnes, on s'avachit après avoir mangé. Mais pendant le Ramadan, c'est pire encore. Parce que vous étiez à une glycémie qui est vraiment, bon, je vais dire, elle reste normale parce qu'elle est maintenue, mais elle est juste au-dessus de l'hypoglycémie. Et puis après, vous la faites monter à 2 grammes, voire 3 grammes, et même que ça dépasse pour certains. Et ça, c'est très mauvais. Ces différences dans la glycémie vous apportent une dysfonction endothéliale et les complications cardiovasculaires sont possibles à ce moment.
Professeur, dites-nous, après des heures de jeûne, par quoi il faut commencer?
L'idéal, c'est un régime anti-inflammatoire, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, mais de nos aïeux. Pas tel qu'on le conçoit maintenant, mais le régime méditerranéen, c'est quoi? C'est un régime qui est pauvre en sucre, qui est pauvre en produits industriels, hein. Il faut privilégier les produits du terroir et puis les fruits et les légumes de saison. Et puis, il faut introduire maintenant les fruits à coque, c'est-à-dire ce qu'on prend en général avec un verre de thé pendant le Ramadan, à condition de ne pas dépasser 30 grammes parce que c'est riche en oméga-3 et qu'il nous faut des oméga-3 pour constituer d'autres hormones, la DHA, l'EPA, qui nous font du bien pour le cerveau, pour la rétine, etc. Et puis, éviter de trop de gras, éviter de manger trop de viande rouge. La viande rouge, elle a été décriée partout. Dans les pays nordiques, bon, ils ont plus de poissons, ils mangent plus de poissons, mais également de la viande blanche. Pour nous aussi, il faut réduire, surtout le mouton. Le mouton est trop gras. Le bon comportement, c'est oublier aussi les sodas, oublier les jus de commerce. Tous les produits transformés. Et même les produits transformés de commerce, vous savez, ils mettent beaucoup d'oméga 6 et très peu d'oméga 3. Et nous avons besoin pour notre corps un certain rapport. Donc, il faut essayer de réduire ces produits transformés. Alors, le bon régime, c'est quoi ? Il y a des gens qui veulent commencer avec une date et un peu de lait. Alors, une date, mais c'est pas cette date ou bien une dizaine de dates. On me dit un chiffre impair. Un chiffre impair, c'est aussi 1, parce que 2 dates, c'est égal à un fruit. Et si vous prenez une date, il vous reste un fruit et demi pour le reste de la soirée. Et notre corps aime la variété. Comme ça, la date, j'ai rien contre la date. Au contraire, elle est riche en fibres, en calcium, en magnésium, en potassium. Donc, c'est intéressant. Mais essayez de ne pas trop en prendre. Alors, une date au début, c'est très bien parce que ça contient 20% de glucose. Ça vous fait monter très vite la glycémie, le reste c'est du fructose. Et ça vous permet de faire votre prière avant de venir rompre le jeûne avec le reste. Et le reste, c'est quoi? Alors, si c'était moi, d'un point de vue santé, je vous dirais qu'il faut commencer par une salade. Parce qu'une salade, c'est riche en fibres. Et lorsque vous allez boire ou lorsque vous enchaînez avec la soupe après, ça va gonfler dans votre estomac. Vous allez être plus ou moins repu, donc il y a la sensation de satiété et vous n'allez pas manger d'un seul coup beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Et ça, c'est réellement les recommandations de santé. Après, la salade, la chorba accompagnée souvent, pour ne pas faillir à la tradition, souvent les bourecs, mais les bourecs, il ne faut pas les frire, il faut plutôt les faire au four ou à l'air fryer. Et puis après, vous vaquez à vos occupations, vous allez faire vos prières, tout ce que vous voulez, et vous mangerez plus tard. Il ne faut pas manger tout d'un coup, tout enchaîné, et après, vous êtes presque dans le coma, vous avez envie de dormir, ou parfois, on se sent tellement pas bien qu'on atterrit aux urgences, et ça, c'est très mauvais. Le bénéfice de ce mois de Ramadan, on le perd quand on mange comme des fous et quand on verse dans les excès de toutes sortes. Essayez de réduire. Choisissez une alimentation de qualité. Diminuez les proportions et vous verrez que vous vous porterez merveilleusement bien et vous allez bénéficier de cet effort que vous faites pendant 29 à 30 jours.
Professeur Samia Zikri, merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien, merci. Et bon Ramadan à tout le monde.
Ramadan.
Chaque année, de nombreux enfants veulent jeûner comme leurs aînés. Cette initiation doit se faire de manière progressive et sous le vigilant des parents. Reportage Lina Douche.
Les petits sont nombreux à vouloir faire comme les grands et commencer à jeûner, souvent progressivement, en prenant le temps de s'adapter.
Le ramadan passé, j'ai jeûné 26 jours. Et j'espère être le ramadan de ce mot entier.
Et les premiers temps que nous sommes, que nous sommes marins de sonhar, tout ce que nous sommes d'aller de sonhar. Et puis nous sommes qui ma maman ou papa ortie.
Maman quand t'aïe blé wèchen hub, ou quand t'encourager.
Les parents, eux, accompagnent ces premières tentatives en veillant à rendre la journée plus légère. Tous s'accordent à ne jamais forcer leurs enfants. Il est important de suivre quelques recommandations pour que le jeûne se passe dans de bonnes conditions, nous dit professeur Chelahsid Ahmed, chef de service pédiatrie à l'hôpital de Tizi Ouzou.
La première chose sur laquelle je vais insister, c'est bien de préparer un sahur avec un objectif d'apporter de l'énergie nécessaire pour affronter un jour de jeûne complet et une hydratation optimale. On va favoriser des glucides complets, des protéines telles que les œufs, le lait et le yaourt, des fruits et de l'eau fractionnée. Il faut éviter les sucres rapides tels que les boissons gazeuses et les aliments trop salés. Surtout, 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 ne pas sauter à l'enfant. Il faut adapter l'activité de la journée. Il ne faut pas que ça empiète l'activité scolaire. Il faut réduire les efforts physiques intenses et éviter les sports en pleine chaleur. L'enfant doit pouvoir se reposer s'il est fatigué. La rupture de jeûne doit être progressive. Il faudra commencer par un peu d'eau, une ou deux dattes, une soupe légère, un repas équilibré, éviter les excès en gras et en sucre, afin d'éviter les surcharges digestives et les ballonnements.
Certains signes doivent néanmoins alerter les parents et les amener à arrêter la journée de jeûne si nécessaire.
Les signes de déshydratation, une bouche sèche, une absence d'urine ou des urines trop foncées ou une soif insupportable. Les signes neurologiques, c'est les vertiges et les céphalées, une somnolence inhabituelle et des troubles de la conscience. Des signes généraux tels qu'une fatigue extrême, une pâleur marquée, des tremblements et des vomissements. Chez un enfant diabétique ou avec une pathologie chronique, le jeûne doit être strictement encadré après prise d'avis de son pédiatre. Des messages clés à transmettre aux parents, c'est que le jeûne est une éducation spirituelle et non pas une épreuve physique. La santé de l'enfant passe avant tout.
Le jeûne reste avant tout un acte spirituel et l'occasion d'expliquer le sens de cette pratique aux enfants et ce qu'elle représente. Kamel Shiket, théologien.
Il est clair qu'aucun enfant n'est tenu de jeûner s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est l'âge légal du jeûne. Cela dit, il est bon d'initier les enfants au jeûne. Et ce que je conseillerais aux parents, c'est de commencer par des jeûnes partiels, en expliquant en quoi consiste le jeûne et que le plus important n'est pas de s'abstenir de boire et de manger, mais de s'abstenir de faire des choses qui vont à l'encontre de l'éthique islamique. Il faut essayer d'encourager les enfants à faire ce jeûne. Et si certains enfants de 10, 11 ans ou même 12 ans insistent à jeûner, il faut tout simplement les accompagner. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de les forcer à jeûner de sorte à ce qu'ils soient prêts une fois qu'ils aient atteint l'âge de la puberté, donc qu'ils deviennent dans le devoir de le faire. Il ne faut surtout pas aller dans ce sens.
Le plus important est ainsi d'accompagner les enfants dans cette nouvelle expérience en douceur et à leur rythme et d'éviter de les brusquer.
Le centre-ville de Mostaganem connaît actuellement une vaste opération de réhabilitation pour redonner tout son éclat à cette zone historique commerciale. C'est la correspondance du jour. Elle est signée Yamina Hamdoud.
Il s'agit d'un projet très attendu par les riverains et les commerçants du centre-ville. Après une première intervention ayant concerné 9 immeubles anciens situés autour de l'ancienne mosquée Al-Badr, l'opération de réhabilitation se poursuit progressivement en fonction des enveloppes financières mobilisées par la wilaya. Hakima Hamza, directrice de wilaya de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction.
L'objectif est de redonner leur valeur aux immeubles anciens, notamment ceux qui entourent la mosquée Al-Badr dans une première phase. Pour le moment, nous sommes intervenus sur 9 immeubles en fonction de l'enveloppe financière dont nous disposions. L'opération se poursuivra pour prendre en charge l'ensemble des immeubles situés autour de la mosquée. Nous demandons simplement aux citoyens un peu de patience car ce type de travaux nécessite des moyens financiers importants. Entre 2023 et 2024, un montant dépassant les 30 milliards de centimes a été consommé.
Une opération de longue haleine donc, mais essentielle pour préserver le patrimoine urbain du centre-ville de Mostaganem, améliorer le cadre de vie des habitants et redonner une image plus harmonieuse à l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Al Jazeera 3.
De Mostaganem à Constantine, où le Festival culturel international Panorama, festival du cinéma, est officiellement institutionnalisé par un arrêté ministériel. Ce nouvel acquis permet à Constantine de consolider sa place sur la carte culturelle nationale et internationale. Sid Ali Fares.
Vous n'êtes pas là pour négocier et arrêter le siège. Confirmer la guerre.
Le festival du panorama du cinéma de Constantine sort de sa réserve et avec lui, c'est tout un pan de notre imaginaire qui se remet en marche. Ce retour, ce n'est pas seulement une date sur un calendrier culturel, c'est une promesse tenue aux amoureux de l'image. De nouveau, les cinéastes de tout le pays vont converger vers la ville des Pans. Hakim Dekar, commissaire du festival.
C'est très historique, très nostalgique. C'est pas un simple événement qui revient, mais toute une mémoire cinématographique, des empreintes, des tranches de vie qui revient avec une pensée à tout ce qui était dans le passé. Et puis, revenir, Panorama, c'est aussi un hommage aux anciens artistes qui ont bâti le Festival du Panorama de Constantine.
Votre programme pour cette édition?
Édition qui va être sur le cinéma d'indépendance et de la résistance.
Et la date du festival?
La date, Habine se donne un temps mlih pour bien préparer parce que c'est un festival international. On va une édition. On n'est pas les meilleurs, mais on est différents.
Le Festival du Panorama du cinéma de Constantine n'est pas qu'une succession d'images. C'est le regard de Constantine qui s'ouvre à nouveau sur le monde.
Le deuxième quart d'heure de ce magazine est consacré au sport. C'est avec Rostom Yahya Chlif aujourd'hui. Rostom, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment ça se passe ce premier jour?
Bah, très bien. Tranquille, à l'aise.
Pas ça de manque de caféine.
Non, ça va. Pour vous, peut-être, oui. Moi, ça va.
On va garder ça dans les coulisses. On va parler de sport, comme je le disais, de gymnastique avec la première étape de Coupe du Monde en Allemagne.
Première compétition de la saison pour notre championne Kaylien Mo, championne olympique et championne du monde, je le rappelle, qui participe aujourd'hui à la première étape de Coupe du Monde en Allemagne, prévue aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 22 février à Cottbus, avec les qualifications au bar asymétrique, sa spécialité, prévue entre la tranche de 16h30 et 20h, avant d'enchaîner demain avec l'épreuve ou la spécialité de la poutre, l'agrès de la poutre. La prestigieuse étape de Cottbus réunira l'élite mondiale de la gymnastique artistique et l'Algérienne y défendra les couleurs nationales aux barres asymétriques et à la poutre. L'Algérie sera également représentée par la gymnaste Lehna Selem aux exercices du sol, saut de cheval et aux barres asymétriques. Lehna Selem qui possède un palmarès continental. Hein. Elle a décroché une médaille d'argent, une médaille de bronze aux Jeux africains de 2019. Ainsi que deux médailles de bronze au championnat d'Afrique de gymnastique artistique en 2022-2023. D'ailleurs, en 2023, lors des jeux arabes organisés à Oran, elle avait remporté la médaille d'or à la poutre et l'argent au bar asymétrique. Lehna Selem qui évolue en France en ce moment, où elle exerce à la fois comme gymnaste et entraîneur au sein d'un club basé à Dijon aux côtés de Kaylem Nemour et de leur entraîneur Nadia Massi. Donc je rappelle, entrée en lice cet après-midi de Kaylia Nemour et Lehna Selem pour la première étape de Coupe du Monde en Allemagne à Cottbus qui commence aujourd'hui et ce jusqu'au 22 février.
Passe à l'athlétisme.
Avec 4 athlètes algériens présents lors du meeting indoor de Liévin en France qui devrait se dérouler ce jeudi pour le compte du Gold World Athletics Indoor Tour. Les détails avec Malik Louhla.
Dans le cadre de la préparation aux prochains mondiaux en salle d'athlétisme qui devront se dérouler du 20 au 22 mars en Pologne, 4 athlètes algériens sont attendus ce jeudi dans la mythique salle de Liévin. Le premier Algérien à faire son entrée, ça sera le jeune Haitham Chinitef à partir de 19h45. Il sera au départ de 1500 mètres aux côtés du récent détenteur du record d'Europe du 1000 mètres, à savoir l'Espagnol Mohamed Attaoui. Haitham Chinitef voudra à coup sûr améliorer son record personnel réalisé le 24 janvier dernier à Lyon, qui est de 3 minutes 36 secondes et 51 centièmes, et aller chercher les minima pour ainsi officialiser définitivement sa participation. À 21h, ça sera au tour du triple sauteur Yesel Triki de faire son apparition dans un concours qui s'annonce de très haut niveau, avec notamment la présence de l'Espagnol champion olympique Diaz Fortune, ainsi que le médaillé de bronze des derniers mondiaux de Tokyo, le Cubain Lázaro Martínez. À 21h10, Mohamed Ali Gouaneh, auteur d'une bonne entame de saison avec un nouveau record personnel en salle, sera en compagnie de Slimane Moula au départ du 800 mètres et qui rend fort à faire face à notamment le deuxième meilleur performeur mondial de l'année, le Belge Elliot Crestan. A noter la présence de plusieurs stars mondiales d'athlétisme, à l'instar de la Britannique championne olympique du 800 mètres Kelly Hodkinson, ou bien la championne du monde du 400 mètres et la Néerlandaise Femke Bol.
Merci Malik Louhla pour tous ces détails concernant le meeting indoor de Liévin, où 4 Algériens y seront donc ce soir. Et on passe au football avec la Ligue de football professionnel qui dévoile le programme de la 21e journée. Ça se jouera les jeudis 26, vendredi 27 et samedi 28 février. Cette journée débutera donc jeudi avec 2 chocs au programme. Dans le coup d'envoi sera donné à 22h. CS Constantine, Chebab LDWZ et Mouloudia d'Alger, JS Kabylie. Trois rencontres sont programmées pour le vendredi 27 février. Paradou Athletic Club Mouloudia d'Oran à 14h30. À la même heure, Mouloudia d'Albaye du SM Alger à 22h. JS Aura Étoile Sportive de Ben Aknoun. Et puis le samedi 28 février, trois rencontres à 14h30. USM Khanchla Olympique Kerbou et à 22h. Entente de Sétif, ESP Mostaganem, MB87, l'AS Ochlof, puisqu'on parle de la Ligue 1, je rappelle, début demain de la 20e journée avec 4 rencontres dès 22h. Le Mouloudia d'Oran face au Mouloudia d'Alger, le Chabab WZ face au Mouloudia Club d'Albayed, l'Entente de Sétif accueillera le MB87 et l'AS Ochlof face au CS Constantine et la suite de cette 20e journée, samedi, avec 4 rencontres, 3 à 14h30. Espérance de Mostaganem, JS Kabylie, Étoile Sportive de Ben Aknoun, USM Khanchla, Olympique Kerbou, Paradou Athletic Club et à 22h, l'USM Alger face à la JS Aura. Toutes ces rencontres, vous pourrez les suivre en direct sur nos ondes. On reste avec le football pour parler des matchs barrages de la Ligue des Champions européennes. La suite des matchs barrages disputés hier, mercredi. Newcastle qui a étrié cette formation azérie de Karabakh 6-1. Il y a eu ce match nul, 3 buts partout entre le club de Bruges et l'Atlético de Madrid. Alors que l'Atlético Madrid menait par 2-0. Le Bayer Leverkusen avec Brahim Maza a battu en déplacement l'Olympiakos 2-0. Et la surprise, les Norvégiens de Bodø Glimt qui s'imposent face à l'Inter de Milan 3-1 en ce match aller des barrages de la Ligue des Champions. Il faut parler de cette équipe norvégienne de Bodø Glimt qui continue à faire sensation en battant l'Inter de Milan hier soir. Le club norvégien enregistre sa 3e victoire face à un géant européen après avoir battu lors de la première phase Manchester City et l'Atlético Madrid pour la première participation des Norvégiens en Ligue des Champions. Les matchs retour des matchs barrages auront lieu les 24 et 25 décembre prochains. Aujourd'hui, il y aura les barrages de la Ligue Europa, 18h45, Dynamo Zagreb avec Moussef Bekala, Ismaël Benassad face à Genk. Il y aura également Fenerbahçe face à Nottingham. À 21h, Celtic Glasgow face à Stuttgart de Amin Bouanani, Lille avec Bentaleb et Issa Mandi face à l'Étoile Rouge de Belgrade et Panathinaikos avec le défenseur Ahmed Touba face à Plzen. Un mot des autres championnats européens. Match en retard de la 24e journée du championnat d'Italie. Le Milan AC qui a été tenu en échec à domicile face à Comé, un but partout. Un nul qui permet au Milan AC de rester à la 2e place avec 54 points, mais à 7 points derrière le leader, l'Inter de Milan, qui compte 61 points, et Naples qui est 3e avec 50 points. Et puis la 16e journée du championnat d'Espagne, un match en retard également. Villarreal qui s'impose 1-0 en déplacement face à Levante, une victoire qui permet à Villarreal de revenir à 10 points derrière le FC Barcelone en remontant la 3e place avec 48 points. Et on va parler de cette dernière information avant de clore cette page sport. Le Sénégalais Habib Bey, l'ancien coach du Red Star et de Rennes, a été nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'a annoncé hier soir le club marseillais. L'OM qui se déplace demain à Brest étant sans entraîneur depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a une semaine. Samedi dernier, c'est Jacques Abardanoudou qui avait assuré l'intérim sur le banc lors de la réception de Strasbourg. Au final, match nul, 2 buts partout. Donc Habib Bey qui est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Merci Rostom Yahya Chérif, on vous retrouvera tout à l'heure dans le journal, soit à partir de 12h30.
Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Siham Bacha. Siham, bonjour.
Bonjour, au sommaire, le président de la République félicite les Algériens à l'occasion de l'avènement du Ramadan. Les habitudes alimentaires et de consommation des Algériens durant ce mois constituent le dossier de cette édition. La commission paritaire des deux chambres du Parlement tient sa première réunion pour statuer sur plusieurs articles du texte criminalisant le colonialisme français et celui portant Côte de la Route. Une voix majeure de la défense de la Palestine s'est tue, Leïla Shahid, première femme à représenter la Palestine à l'étranger, s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Au Soudan, un organisme de l'ONU fait état ce jeudi et pour la première fois d'actes de génocide à Al-Fashir. Et puis sport, gymnastique, première étape de la Coupe du Monde en Allemagne. Notre championne olympique, Kaïlia Nemour, entre en lice cet après-midi au bar asymétrique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes donc le premier jour du mois sacré. Le président de la République a adressé hier ses vœux aux Algériens à l'occasion du Ramadan. Il a par là même salué les efforts qui ont permis d'assurer la disponibilité des produits sur le marché, appelant à éviter toute forme de spéculation et de gaspillage. Je vous propose de le réécouter.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli Allahumma wa sallim ala habibina wa imamina wa nabiyina. سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه أيتها المواطنات أيها المواطنون نحمد الله تعالى أن هل علينا شهر رمضان المبارك بنفحاته الربانية فبهذه المناسبة يسعدني أن أتوجه إلى كل الجزائريات والجزائريين بأصدق التهاني وأطيب التبريكات سائلا المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وتضامن كما أنوه بكل المجهودات التي جعلت بلادنا في منأى عن كل التقلبات من خلال توفير كل ما يحتاجه المواطن من منتوجات مع تضافر جهودنا بالطبع جميعا للحفاظ على هذه الوفرة وتجنب كل أشكال المضاربة والتبذير كما لا يفوتني ونحن على أعتاب شهر الرحمة والمغفرة أن أهنئ أبناء جاليتنا في الخارج بهذه المناسبة دون أن ننسى أشقاءنا في فلسطين الجريحة راجين الله عز وجل أن يخفف من معاناتهم وصح رمضانكم ورمضان كريم عاشت الجزائر حرة أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
On reste avec le ramadan et la consommation. Le bon plan de ce mois, ce sont les marchés de proximité. Ils proposent de la vente directe aux consommateurs, soit des prix réduits. Ces marchés, il y en a partout à travers le territoire national, dont une trentaine rien que dans la wilaya de Tizi Ouzou. Mohamed Haouchine.
Ces marchés qui proposent des produits de large consommation à des prix compétitifs ont ouvert leurs portes depuis hier déjà et ce à la grande satisfaction des citoyens qui ont aussitôt assailli les étalages alors que la direction locale du commerce a encore innové cette année en organisant une caravane de commercialisation de produits alimentaires pour sillonner les villages montagneux les plus éloignés de la wilaya comme nous le confirme le directeur du commerce Abdelkrim Merabet.
Cette initiative a pour objectif de rapprocher les produits du consommateur. Elle permet aussi le provisionnement régulier du marché et d'avoir des prix compétitifs et concurrentiels durant une période marquée par forte demande sur les produits de large consommation. Parallèlement à l'ouverture de ce marché de proximité, la direction de commerce a lancé un caravane d'approvisionnement afin de toucher les communes les plus éloignées, les localités montagneuses. 13 opérateurs ont été mobilisés pour cette initiative qui vise à approcher les produits de large consommation aux consommateurs à des prix compétitifs. En plus, la direction de commerce a lancé une campagne de sensibilisation contre le gaspillage des aliments en général.
Enfin, il est à noter que le directeur local du commerce a tenu à préciser que ces marchés de proximité seront bien achalandés et ouverts durant tout le mois sacré de Ramadan. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Al Jazeera 3.
Et en plus de ces marchés, à Al-Mni'a, des caravanes de solidarité vont sillonner les zones les plus enclavées. Mahfoud Karkar.
Ils sont quatre marchés de proximité mis à la disposition des consommateurs. Nordin Mkaddem, directeur du commerce Mni'a.
On a organisé quatre marchés. Le premier concerne tous les produits alimentaires de première nécessité, dont l'approvisionnement a été largement suffisant, avec des prix pratiquement moins que d'autres pratiqués dans les marchés normaux. Le deuxième marché, les fruits et légumes. Et là, on a fait appel à des agriculteurs qui ont exposé le produit directement aux consommateurs avec des prix très compétitifs, à savoir 50 dinars la pomme de terre et 50 dinars la tomate, ainsi que un autre marché pour les habits et les chaussures.
Des caravanes d'approvisionnement vers les zones lointaines.
Pour les zones lointaines, telles que l'APC de Hassif Hal, le village de Hassir Hanem, on a dû organiser deux caravanes de solidarité qui sont remplies de produits de première nécessité. Ils ont été acheminés vers ces deux zones. Ces caravanes vont être multipliées davantage pendant tout ce mois de Ramadan.
Contrôle du marché intensifié.
30 agents de contrôle ont été mobilisés pour encadrer le contrôle d'une manière efficace, à être présent sur le marché d'une manière permanente, une présence continue H24, 7 sur 7, pour pallier à toutes les pratiques illicites et anticoncurrentielles et prendre les mesures idoines contre ces contrevenants.
Des campagnes de sensibilisation sont programmées pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la rationalisation de la consommation des sucres et du sel. De l'Emniha Mahfoud Kerkar pour Al-Jishan 3.
Le lait, un aliment habituellement prisé par les Algériens, il l'est davantage durant le Ramadan. Une nouvelle laiterie est inaugurée ce jeudi à Louiba par le ministre de l'Agriculture et celle du Commerce intérieur. Giplay a prévu au total 1 million de litres de lait supplémentaires durant le mois sacré. Samah Lahlouh, PDG du groupe Giplay, au micro de Khadija Razel.
En prévision du mois de Ramadan où on enregistre une augmentation de la demande sur le lait pasteurisé, le groupe Giplay renforce ses capacités de production avec 1000 tonnes de poudre de lait, ce qui amène la production mensuelle de 3,3 millions de litres à 4,2 millions de litres de lait par mois. Le groupe Giplay, qui dispose de plus de 200 points de vente permanents à travers le pays, se dote également de 27 nouveaux points de vente ouverts durant le mois de Ramadan.
Et Ramadan rime malheureusement avec accident. Une campagne de sensibilisation va s'étaler tout au long du mois. D'autant que le nombre d'accidents est en hausse par rapport à, était en hausse en 2025 comparé à l'année 2024, ainsi que le nombre de blessés et de décès. Voici le bilan de Lahsen Boubka, directeur d'études à la délégation nationale de la sécurité routière. Il répondait ce matin aux questions de Nasrin Dahmoun.
Pour cette année 2025, nous avons enregistré 26 976 accidents corporels qui ont fait 37 020 blessés et 3 838 décès. Quand même, il y avait une certaine augmentation pour les accidents de 2,68% et pour les blessés, une augmentation de 4,9% et pour les décès, une augmentation de 2,62%. C'est une hausse pour les nombres d'accidents, le nombre de blessés, le nombre de décès par rapport à 2024. Généralement, c'est toujours les même c'est Alger, Oran, Sétif, Msila, Djulfa, Chlef.
Le Ramadan à peine entamé, le gouvernement anticipe sur Eid al-Adha en réunion hebdomadaire. L'exécutif a fait le point hier sur l'opération d'importation du cheptel, en plus d'un certain nombre de dossiers. Sophia Boukercha.
Le gouvernement a fait le point sur plusieurs dossiers importants, dont l'importation d'un million de moutons en prévision de Eid al-Adha. Cette mesure, décidée par le président de la République, vise à soutenir le pouvoir d'achat, stabiliser les prix de la viande rouge et garantir la disponibilité du cheptel. Le secteur agricole a signé des accords sanitaires et commerciaux pour assurer un transport et une distribution conformes aux normes sanitaires en coordination avec les services vétérinaires et douaniers. Dans les infrastructures, l'exécutif a examiné le projet de la réalisation d'une trémie à Cheraga sur la route nationale 41, dont les travaux sont achevés à 60%. Cette trémie permettra de réduire les embouteillages et d'améliorer la circulation entre Cheraga, Bouchaoui et Ain Benyan. Sur la sécurité hydrique, le gouvernement a fait le point sur l'avancement du barrage de Sidi Khlifa à Tizi Ouzou, destiné à renforcer l'alimentation en eau potable et l'irrigation. Il a également suivi l'aménagement du barrage de Bouzina à Batna, qui approvisionne les régions des Aurès et soutient l'agriculture. Enfin, il y a eu examen du plan national jeunesse 2025-2029 visant à préparer une génération autonome, créative et pleinement engagée dans le développement national.
Dans le reste de l'actualité nationale, la commission paritaire des deux chambres du Parlement tient sa première réunion pour statuer sur les 13 articles de la proposition de loi portant criminalisation du colonialisme français. Le texte en question a été adopté le 21 janvier dernier par les sénateurs avec une réserve sur ces articles. Et le président du Sénat, Azouz Nassali, présidera cet après-midi une réunion avec les représentants des membres de la commission paritaire pour étudier le texte sur le colonialisme français et le projet portant Code de la route. Le ministère des Affaires étrangères se déploie sur au niveau national. Trois annexes régionales ouvrent leurs portes à Ouargla, Oran et Constantine. D'autres annexes seront ouvertes dans d'autres wilayas, affirme le ministre de l'Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud. Propos recueillis par nos collègues de la radio locale de Ouargla.
Dans un premier temps, des annexes régionales seront ouvertes dans trois wilayas, Ouargla, Constantine et Oran, avec la possibilité d'élargir progressivement cette initiative à d'autres régions du pays, selon les besoins exprimés par le ministère des Affaires étrangères. Ces annexes régionales constituent un modèle concret visant à rapprocher l'administration du citoyen.
Les annexes de l'Est du pays ont été inaugurées hier par le secrétaire d'État de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Coopération énergétique d'abord entre l'Algérie et le Niger. Une réunion par visioconférence a réuni le groupe Sonel Gaz et la société nigérienne d'électricité Nigelec pour relancer leur accord bilatéral avec au programme la réalisation d'une centrale électrique au Niger et un cycle de formation en Algérie. Cette dynamique fait suite à la visite en Algérie du président de la République du Niger, Merzougui Fatma Zohra, directrice de la communication à Sonel Gaz, nous en dit davantage.
Il a été convenu du déplacement prochain d'une équipe d'experts de Sonel Gaz à Niamey afin d'évaluer la préparation du site retenu pour la réalisation d'une centrale électrique destinée à renforcer l'approvisionnement du Niger en énergie. Le partenariat prévoit également l'accueil en Algérie d'une équipe technique de Nigelec pour un cycle de formation spécialisé qui devra se dérouler au niveau de l'école de formation en engineering relevant de Sonel Gaz Service et qui est située à Adra. Cette action traduit une volonté claire et sincère de transfert de compétences et de coopération durable. Dans la même dynamique africaine, le président directeur général de la filiale Sonel Gaz Engineering effectue une émission de travail au niveau de la République du Mozambique. Un programme technique dense a permis d'examiner les opportunités de coopération dans les domaines de la production d'électricité et de l'ingénierie énergétique. L'a permis également d'évaluer les aspects organisationnels et logistiques et de visiter des installations stratégiques, notamment la centrale électrique au niveau du port de Maputo qui a été mise en service en 2018.
Le directeur général de la filiale Sonel Gaz Ingénierie a effectué, lui, une mission de travail au Mozambique dans le but de soutenir et de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie électrique. À l'étranger, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a condamné une série d'actions sionistes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, disant craindre un nettoyage ethnique visant les Palestiniens, créé pour aider justement à la reconstruction de Gaza, puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits. Le Conseil de paix de Donald Trump tient aujourd'hui à Washington sa première réunion. Et une voix majeure de la défense de la Palestine s'est tue, Leila Shahid, première femme à représenter la Palestine à l'étranger, s'est éteinte hier à l'âge de 76 ans. Kalima Hasnaoui.
Leila Shahid est la première femme à avoir représenté donc l'Organisation de libération de la Palestine à l'étranger à la fin des années 1980, déléguée générale en France de 1994 à 2005, puis auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg jusqu'en 2015. Elle fut la dame de fer face à la propagande de l'agresseur israélien. Diplomate chevronnée, Shahid a toujours été une grande militante pour les droits du peuple palestinien, pour la justice et pour la paix. Habitée par la Palestine, par les réfugiés et ce peuple courageux, elle a toujours combattu contre l'impunité et l'injustice. Au-delà de la diplomatie, Leila Shahid a contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages collectifs et documentaires. Elle a notamment soutenu le tribunal Russell sur la Palestine. Tout au long de sa vie, Leila Shahid a dénoncé avec vigueur l'occupation et les violations du droit international. Elle a toujours appelé à comprendre les causes profondes du conflit plutôt qu'à céder aux simplifications.
La mission indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Soudan fait état aujourd'hui d'actes de génocide al-Fashar commis par les forces de soutien rapide qui contrôlent cette ville du Soudan depuis octobre dernier. Dans un rapport intitulé « Caractéristiques du génocide al-Fashar », la mission a établi que l'intention génocidaire est la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer des agissements systématiques des FSR dans cette ville du Darfour, région de l'ouest du Soudan. Et une attaque de drone attribuée aux forces paramilitaires soudanaises a fait ce matin un mort dans la ville de Kurmuk, à la frontière avec l'Éthiopie, a indiqué une source gouvernementale. L'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné ce matin à la prison à vie pour avoir déclaré la loi martiale en décembre 2024 et envoyé l'armée au Parlement pour tenter de le museler. Le tribunal a également déclaré coupable l'ex-ministre de la Défense et l'a condamné à 30 ans de prison. Retour chez nous, le Festival culturel international Panorama Cinéma de Constantine est officiellement institutionnalisé par un arrêté ministériel. Ce nouvel acquis permet à Constantine de consolider sa place sur la carte culturelle nationale et internationale. Je vous propose d'écouter le commissaire du festival, Hakim Dekkar. Il est au micro de Sid Ali Fares.
C'est pas un simple événement qui revient, mais toute une mémoire cinématographique, des empreintes, des tranches de vie qui revient avec une pensée à tout ce qui était dans le passé et puis revenir. Panorama, c'est aussi un hommage aux anciens artistes qui ont bâti le Festival du Panorama de Constantine. Édition qui va être sur le cinéma d'indépendance et de la résistance. La date, Habin se donne un temps mlih pour bien préparer parce que c'est un festival international. On n'est pas les meilleurs, mais on est différents.
On arrive au sport, gymnastique, avec la première compétition de la saison pour nos championnes. D'abord, Kaylian Emour, championne olympique, qui participe aujourd'hui à la première étape de Coupe du Monde en Allemagne, avec les qualifications au bar asymétrique, sa spécialité, prévue de 16h30 à 20h, avant d'enchaîner demain avec la poutre. L'Algérie sera également représentée par la gymnaste Lehna Salem aux exercices du sol, saut de cheval, et au bar asymétrique. On leur souhaite bonne chance. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Mohamed Dazawi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Klimou qui était à la technique, Nasserine à la régie d'antenne. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.